Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument fascinant. Comment des chimistes conçoivent des molécules sur mesure pour, eh bien, pour combattre des maladies comme le cancer?
Oui, imaginez un peu des artisans moléculaires qui construisent une clé unique pour venir bloquer une serrure biologique qui aide une tumeur à grandir.
Et pour décortiquer ça, on a sous les yeux une publication scientifique du journal Organic and Biomolecular Chemistry. Ce qui la rend super intéressante pour notre analyse, c'est qu'elle vient d'une équipe française.
Tout à fait, de l'Université de Picardie Jules Verne. Et l'article, c'est un peu leur carnet de bord. Ils détaillent la synthèse, c'est-à-dire la fabrication, et puis l'évaluation de nouvelles molécules.
L'idée, c'est de comprendre leur stratégie. On va voir comment des choix qui peuvent paraître minuscules, comme remplacer un seul atome par un autre, peuvent avoir des conséquences énormes.
Ou comment assembler plusieurs petites molécules en une seule supermolécule peut décupler leur efficacité. C'est vraiment une plongée au cœur du raisonnement qui mène, peut-être un jour, à un nouveau médicament.
Alors, allons-y, entrons dans le vif du sujet.
C'est parti.
Pour commencer, il faut une cible, c'est la base. Dans cette étude, c'est donc cette enzyme l'héparanase. Avant de vouloir la bloquer, il faut comprendre ce qu'elle fait, non ? Quel est son rôle dans notre corps ?
Alors, l'héparanase, c'est ce qu'on pourrait appeler une enzyme de remodelage. Elle s'attaque à ce qu'on nomme la matrice extracellulaire.
La matrice, c'est une sorte de ciment qui tient nos cellules ensemble, c'est ça ?
Voilà, c'est exactement ça, une sorte de gel, de structure qui maintient tout en place. Et en dégradant un de ses composants, l'héparane sulfate, l'enzyme crée des brèches.
Des brèches. Et j'imagine que dans le cas d'un cancer, c'est une très mauvaise nouvelle.
C'est désastreux. Ça permet aux cellules de la tumeur de se détacher, de voyager dans l'organisme.
Ce sont les métastases.
Exactement. Et ça leur permet aussi de créer de nouveaux vaisseaux sanguins pour se nourrir. L'enzyme joue aussi un rôle dans l'inflammation. Bref, c'est une cible de choix.
D'accord. Donc, si on la bloque, on freine la maladie. Et la stratégie de base, si je comprends bien l'article, c'est de lui tendre un piège, de créer des leurres.
C'est ça. Il faut tromper l'enzyme. Et pour ça, le mieux, c'est de lui donner une molécule qui ressemble énormément à sa cible habituelle, l'héparane sulfate. Mais une molécule qu'elle ne pourrait pas couper.
D'accord.
Et les chercheurs avaient déjà travaillé là-dessus. Ils avaient synthétisé des analogues de disaccharides, qui sont les briques de base de l'héparane sulfate, et là, ils ont eu une idée vraiment brillante.
C'est là qu'on arrive à ce fameux changement d'atome. Ils ont remplacé un atome d'oxygène par un atome de soufre, dans la liaison entre les deux sucres. Ça a l'air d'un détail. Pourquoi ce choix ?
Ah, mais c'est un véritable coup de maître de chimie médicinale. La liaison avec l'oxygène, une liaison COC, c'est justement ce que l'enzyme est faite pour couper. Mais la liaison avec le soufre, CSC...
Elle est beaucoup plus solide.
Beaucoup plus stable, exactement. L'enzyme va reconnaître la molécule, elle va s'y fixer, mais impossible de la couper. Le leurre reste coincé dans la serrure. L'enzyme est bloquée.
Le pioche parfait. Et les résultats, ils étaient à la hauteur.
Ils étaient spectaculaires. C'est vraiment ce qui a motivé toute la suite de cette étude. Pour mesurer l'efficacité, on utilise une valeur, l'IC50.
Oui, pour rappel, c'est la concentration nécessaire pour bloquer la moitié de l'activité de l'enzyme. Plus le chiffre est petit, plus la molécule est puissante.
Exactement. Alors, la version originale, avec l'oxygène, avait une IC50 de 640,7 micromolaires. C'est une inhibition assez faible, en fait.
D'accord. Et la version avec le soufre, alors ?
Eh bien là, on change de dimension. La version avec le soufre, le thiodisaccharide, affichait une IC50 de seulement 15,4 micromolaires.
15,4, c'est plus de 40 fois plus puissant.
40 fois, oui. Juste en changeant un seul atome.
C'est énorme. On s'attend rarement à un effet aussi net pour une si petite modification. Ça montre bien à quel point la biologie est précise. Ce premier succès, c'était donc leur point de départ pour la nouvelle étude.
Précisément. Il tenait une base excellente, un squelette moléculaire très prometteur. La question suivante, c'était, est-ce qu'on peut encore l'améliorer en touchant à d'autres parties de la molécule ?
D'accord.
Et leur attention s'est portée sur un autre groupe chimique, un groupe crucial pour la reconnaissance par l'enzyme, le groupe sulfate.
Ok, donc la nouvelle idée, c'est de remplacer ce groupe sulfate par un autre, son cousin chimique, le sulfonate. L'objectif, j'imagine, c'est d'améliorer encore la stabilité de la molécule.
C'est l'idée.
Alors, avant que vous ne donniez le résultat, mon intuition de chimiste me dit que si on remplace un groupe par un analogue encore plus stable, bah on devrait obtenir une molécule au moins aussi bonne, si ce n'est meilleure. Je me trompe ?
C'est exactement le pari qu'ils ont fait. Et c'est ce que toute la logique de la chimie médicinale, la recherche de ce qu'on appelle des bioisostères, aurait laissé penser. On remplace un groupe sulfate par un groupe sulfonate qui est, en théorie, plus résistant.
Et
c'est là que la biologie nous réserve une sacrée surprise.
Ne me dites pas que ça n'a pas marché.
C'est pire que ça. Enfin, c'est un échec, mais un échec extraordinairement instructif. D'abord, il faut saluer le travail de synthèse.
Ah oui.
Oui, pour les étudiants en chimie qui nous écoutent, l'article est un cas d'école. La première méthode de synthèse a échoué, les chercheurs ont dû trouver une autre voie en plusieurs étapes, tosylation, iodation, substitution, pour enfin obtenir leurs molécules.
On a donc nos deux compétiteurs. D'un côté, le composé 20, avec le sulfate d'origine. De l'autre, le composé 23, avec le nouveau groupe sulfonate, plus stable. Qui gagne ?
Le résultat est sans appel et il va à l'encontre de l'intuition. Le composé sulfaté 20 est un inhibiteur, disons, modéré, avec une IC50 de 105,7 micromolaires.
D'accord.
En revanche, son cousin sulfonaté 23, il est presque 5 fois moins actif. Son IC50 est de 504,7 micromolaires.
500 ? C'est un véritable fiasco en termes d'activité.
Oui, biologiquement, c'est un échec.
Incroyable. La molécule censée être mieux pensée, plus stable, est en fait un cancre. Ça va à l'encontre de toute la stratégie. Qu'est-ce que ça nous apprend ?
Et c'est là qu'est la pépite de cette partie de l'étude. Cet échec est plus riche d'enseignements qu'un succès. Il nous montre que l'interaction entre la molécule et l'enzyme, ce n'est pas juste une question de charge négative ou de forme générale. Non.
C'est plus subtil.
Beaucoup plus. La biologie opère avec une précision chirurgicale. L'enzyme ne voit pas juste une charge négative. Elle reconnaît la géométrie exacte du groupe sulfate, la position de chaque atome d'oxygène, sûrement pour former des liaisons hydrogènes très spécifiques.
Et le groupe sulfonate, avec son petit CH2 en plus, ne rentre pas aussi bien dans le moule ?
Exactement. La clé n'entre plus parfaitement dans la serrure.
Donc ce n'est pas juste un échec, c'est une nouvelle information capitale. Pour faire un bon inhibiteur de l'héparanase, le groupe sulfate est, disons, non négociable. Il faut le garder.
Voilà. J'imagine qu'ils ont dû être un peu déçus sur le moment, mais en recherche, une hypothèse réfutée, c'est un grand pas en avant. Ça évite de partir dans de mauvaises directions.
Justement. En parlant de la suite, après cette déception, ils n'ont pas abandonné. Je vois dans l'article qu'ils ont complètement changé leur fusil d'épaule.
Ah oui.
On passe d'une approche de modification subtile à une stratégie beaucoup plus brute force, en quelque sorte. La multivalence. De quoi s'agit-il ?
L'idée est aussi simple qu'élégante. Au lieu d'avoir une seule tête inhibitrice qui bloque l'enzyme, pourquoi ne pas en attacher plusieurs sur une même structure de base ? Un échafaudage moléculaire.
D'accord.
C'est le principe de la multivalence. L'avantage est statistique. Si une tête se détache de l'enzyme, les autres sont encore juste à côté, prêtes à prendre le relais. Ça crée un effet de concentration locale extrêmement puissant.
C'est un peu comme utiliser un trousseau de clés au lieu d'une seule. Si une clé rate la serrure ou en sort, une autre est juste à côté pour essayer. C'est malin. Et quels échafaudages ont-ils utilisés ?
Ils ont utilisé deux sucres plus gros et bien connus. D'abord le maltotriose, pour y accrocher trois de leurs inhibiteurs. On obtient une structure trivalente.
Trois têtes.
Et ensuite, une molécule plus grande, la bêta-cyclodextrine, qui leur a permis d'en accrocher sept. Là, on a une structure heptavalente.
Sept têtes. Et pour lier tout ça, ils ont utilisé une technique dont on entend beaucoup parler, la chimie clique.
Oui, la réaction QAC, pour être précise. C'est un peu la star de la chimie moderne. Ça permet de clipser deux molécules ensemble de manière très très efficace et très propre. C'est l'outil parfait pour construire ces architectures complexes.
Et les résultats décrits dans le tableau 1 de la publication, j'imagine qu'ils sont à la hauteur de l'effort.
Ils sont encore plus frappants que ceux du début. D'abord, un test de deux contrôles. Ils ont créé le glycocluster trivalent mais non sulfaté, le composé 30.
Et il est peu actif, je parie.
Très peu. IC50 de 248,6 micromolaires. C'est une confirmation de plus que sans le sulfate, rien ne marche. Mais maintenant, attention, le trivalent sulfaté, le composé 29, avec ses trois têtes,
oui,
devient un excellent inhibiteur. Son IC50 chute à 6,67 micromolaires. C'est 16 fois mieux que la molécule sulfatée seule.
16 fois mieux. L'effet de groupe est donc bien réel. Et avec 7 têtes, l'effet est encore plus fort, j'imagine.
Exactement. Le champion toute catégorie de cette étude, c'est le composé 31, l'heptavalent sulfaté. Avec ses 7 têtes, il atteint une IC50 de 2,98 micromolaires.
2,98, c'est 35 fois plus efficace que l'inhibiteur de base.
35 fois. On voit très clairement que l'union fait la force. C'est une amplification spectaculaire de l'activité.
C'est un succès indéniable. Mais une chose me frappe en regardant les données. Je vois les résultats pour les molécules multivalentes sulfatées, mais où sont les résultats pour les versions avec les sulfonates? Ils n'ont pas testé?
Ah, et nous voilà revenus à notre fameux échec instructif. C'est un point absolument passionnant de l'article, qui illustre parfaitement les imprévus de la recherche. Ils ont bien sûr essayé de les fabriquer. Mais ils n'ont pas réussi. La réaction n'a simplement pas fonctionné.
La chimie, clic, la réaction star, a échoué. Comment ça? Pourquoi?
Les auteurs émettent une hypothèse très solide. La réaction clic, QAUAC, a besoin d'un catalyseur, des ions de cuivre.
D'accord.
Et il est très probable que le groupe sulfonate, contrairement au sulfate, se lie si fortement à ces ions cuivre qu'il les piège, il les séquestre. En faisant ça, il empoisonne le catalyseur et empêche la réaction de se faire.
Donc l'échec de la synthèse, ce n'est pas juste un problème technique.
Non, c'est une observation scientifique en soi.
Je vois.
Ça nous renseigne sur une propriété chimique fondamentale du groupe sulfonate, sa forte affinité pour les ions métalliques comme le cuivre, ce qu'on appelle la chélation, une information précieuse.
Et ça vient renforcer ce qu'on avait appris de l'échec biologique. Sulfate et sulfonate, ce sont vraiment deux choses très différentes.
Exactement.
Alors, si on fait le bilan, ce travail mené à l'université de Picardie Jules Verne, c'est une magnifique démonstration de la démarche scientifique. On a vu qu'un changement atomique infime, un oxygène pour un soufre, peut transformer une molécule médiocre en un inhibiteur 40 fois plus puissant.
On a aussi vu que l'imitation moléculaire, ça a ses limites. Le sulfonate, bon candidat sur le papier, s'est avéré être un mauvais remplaçant pour le sulfate, nous enseignant en passage une leçon sur l'extrême spécificité des interactions biologiques.
Et enfin, la confirmation que l'union fait la force. L'approche multivalente a permis d'amplifier l'efficacité de l'inhibiteur jusqu'à 35 fois.
Tout à fait.
Si on met ça dans un contexte plus large, qu'est-ce que ça nous dit sur la conception de médicaments?
Ça nous montre que c'est un processus itératif, fait d'hypothèses, de tests, de succès et d'échecs. Et chaque résultat, même négatif, permet d'affiner la compréhension. C'est ce travail de fond, cette recherche fondamentale, menée dans les laboratoires universitaires, qui jette les bases des innovations de demain. C'est une science de la patience, de la déduction.
Et pour finir, une pensée pour aller plus loin. Cet échec de la réaction clic avec les sulfonates, à cause de leur affinité pour le cuivre, ça m'a vraiment interpellé. Ça soulève une question, non?
Absolument. Est-ce que cet échec synthétique ne pourrait pas devenir une opportunité si on retournait le problème?
C'est-à-dire?
Cette capacité des groupes sulfonates à piéger spécifiquement des ions métalliques, qui a été un obstacle ici, est-ce qu'on ne pourrait pas l'exploiter comme une fonctionnalité, dans un tout autre contexte?
Ah oui, je vois.
On pourrait imaginer s'en servir pour concevoir des capteurs, par exemple, pour détecter des polluants, comme les métaux lourds dans l'eau, ou pour créer de nouveaux matériaux, de nouveaux catalyseurs.
Ou au contraire, on cherche justement à immobiliser un ion métallique.
Précisément. C'est un exemple parfait de la sérendipité en recherche. Parfois, la solution à un problème qu'on n'avait pas encore formulé se trouve cachée dans l'échec d'une autre expérience.